conférence privée par le père Philippe le 29 avril 1988 à Rimont, jour de la prise d'habit de frère Philippe Masclé.
Je ne sais pas si je dois parler aux novices de Saint-Jean-d'Arc ou si je dois parler au prophète de Rimont. Alors il faut dépasser les deux. Et puis les sœurs par derrière en plus de ça. Ça fait trois termes de la dialectique. Je voudrais continuer un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que ça m'impressionne assez du reste. Une prise d'habit comme on l'a vu aujourd'hui, ce n'est pas banal. Si on essaie de comprendre la providence, si on essaie de dépasser l'aspect un peu extérieur, en cette année mariale, je crois qu'on comprendra parfaitement au ciel ce que représente l'année mariale pour nous. Cette année mariale, on a eu des secousses diverses, multiples. Et ça continue. J'espère que, quand même, la Sainte Vierge aura un peu pitié de nous. Elle nous secoue parce qu'elle nous aime. Je me souviens, ça reste dans ma mémoire, prêchant à une abbaye bénédictine, très traditionnelle, où on le chantait tout l'office en latin, et en même temps très fidèle au Saint-Père. Je ne dis pas où, c'est pas la peine. À la fin de la retraite, il y a quelques années de ça, à la fin de la retraite, l'abbesse, descendant l'escalier, a failli tomber. C'est elle qui m'a raconté ça. Et elle m'a dit, c'était une sainte personne. Elle m'a dit, j'ai senti le coup de patte du démon. Et j'ai répondu, tout seul, tout haut, j'ai répondu, je le réinviterai. Je trouve ça très bon. C'était à la fin de la retraite. Elle avait senti le coup de patte du démon à la fin de la retraite, expulsée, écartée. Parce que de fait, c'est vrai, c'était une retraite, quand on prêche une retraite chez les contemplatives, c'est toujours assez impressionnant. C'était la première fois que je prêchais là, je ne connaissais pas. C'était un très bon couvent, très bonne abbaye. C'était mon dernier jour. Et la baisse, ce n'est pas du tout quelqu'un à vision, positive, oh là 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 là. Une véritable messe qui savait ce que c'était que le coup de crosse. Oui, c'est vrai, ça fait partie de la messe. Quand Sœur Geneviève aura une crosse, alors on verra ce que c'est. Hein. Elle n'en a pas besoin intérieurement. C'est beaucoup mieux que d'avoir de l'extérieur. Et c'est bien, il faut avoir ça quand on a le commandement, surtout au début, c'est nécessaire. Elle savait très bien ce que c'était. Et alors elle avait compris très fort que c'était pour l'abbaye comme un élan nouveau, un tournant. Ce qu'elle m'a dit, c'est un tournant pour nous. On comprend mieux ce que c'est que notre vocation contemplative. Elle a ajouté, du reste, il y a si peu de prédicateurs qui prêchent sur la contemplation. on prêche sur les vertus. Je me souviens quand le père Garrigou-Lagrange, et pourtant le père Garrigou-Lagrange était un saint homme, quand le père Garrigou-Lagrange est venu prêcher au Solchoir, où j'étais encore étudiant, il s'est prêché sur les vertus, toute une retraite sur les vertus. C'est long. C'était d'excellent saint Thomas, mais on avait l'impression qu'au-delà des vertus, il y avait quand même les vertus théologales et la contemplation. Et c'est sur les vertus, vertus de tempérance, ça a commencé comme ça. Tous ont serré sa ceinture au début. Vertus de tempérance, vertus de force, ça allait un peu mieux. Vertus de justice, on se sentait à l'aise. Mais la prudence, alors, pas commode. Mais toute une vertu, mais c'était normal. Prêcher sur les vertus. Les vertus théologales. Pourtant, le père Garrigou, encore une fois, était considéré comme quelqu'un qui prêchait le point de vue mystique. Mais je crois qu'il était très intimidé de prêcher au Solchoir. Parce qu'il avait été un peu éjecté de la province de Paris, entre nous. On l'avait envoyé à Rome. Il aurait pu être gênant. Alors, quand il revenait pour prêcher au Solchoir, c'était pas très commode. Je comprends. C'est toujours très difficile de prêcher ses frères. C'est vrai qu'au fond, on prêche peu la contemplation. Et je crois que la communauté Saint-Jean, si elle est fidèle, elle devra prêcher dans l'Église ce qu'est la contemplation. Si vous existez, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose, c'est pour maintenir dans l'Église un regard très profond sur les vertus théologales. Je dis ça aussi bien pour le successeur apostolique que pour la communauté, la congrégation Saint-Jean, pour tous nos frères, ceux qui restent dans le silence et ceux qui seront prêtres et qui prêcheront des missions ou qui seront curés. On ne peut pas être curé si on est de la congrégation Saint-Jean comme les autres curés. Impossible. On ne doit pas. On doit avoir un regard contemplatif. Vous voyez, c'est ça que je crois qu'entre nous, nous devons essayer de plus en plus comprendre. Cette année, donc, mariale nous a secoué beaucoup. Tous. C'est très vrai, ça nous a secoué tous. Parce que, de fait, ça se coud dans tous les sens, ça se coud en réclamant de nous un don plus grand, ça se coud chez certains parce que de fait ils n'osent pas avancer, ça se coud parce que certains s'en vont. Alors c'est rude, c'est évident que c'est toujours très rude de voir des frères qui s'en vont. Je l'ai connu dans l'ordre de Saint-Dominique, et surtout quand j'entendais certains frères qui s'en allaient, qui disaient certains pères, et quelquefois très illustres, qui s'en allaient, certains pères que j'avais eus comme professeurs, exégètes, archéologues, qui s'en allaient et qui disaient « on n'a pas été assez aimés ». Et ça, c'est vrai, on n'a pas été assez aimés. Si on s'aimait plus, on serait là pour se soutenir aux moments difficiles. Il y en aura tous des moments difficiles. C'est forcé, ça ne peut pas être autrement, puisqu'on est en pleine lutte. Et que la lutte ne cessera d'aller plus loin. Ça, je peux être prophète en vous disant ça. L'Apocalypse nous montre. La lutte ira toujours plus loin et plus interne. Et au niveau des vertus théologales. Parce que la lutte aujourd'hui, c'est au niveau des vertus théologales. C'est au niveau de l'espérance et de la foi. Et c'est ça que nous devons confier à la Vierge Marie, notre espérance et notre foi, pour être fidèles et pour maintenir une ardeur au point d'une espérance. Ne pas être désabusé. Vous voyez, c'est ça qui est très difficile pour nous. C'est que nous sommes tous un peu infectés de positivisme. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un en disant, c'était dans un climat assez particulier du repas dans lequel je me trouvais. C'est ça, ça sent le positivisme. Alors, le frère Philippe Marie a dit, oh, ça c'est la pire injure que peut dire père Philippe. Et c'est vrai, c'est la pire injure quand on sent le positivisme. Le positivisme, c'est de juger en fonction des résultats. N'oubliez jamais ça. De juger en fonction des résultats. Ça, c'est le positivisme. On n'a pas le droit de juger en fonction des résultats. Parce que Dieu regarde les intentions des cœurs. Et que nous sommes tous, le livre de Samuel, c'est dit explicitement, et c'est dit avec force, Dieu regarde les intentions des cœurs, et Jésus le dit, puisqu'il dit ne jugez pas selon les apparences. Les apparences, c'est ce qu'on voit. Les journalistes, c'est le cas de le dire aujourd'hui, hein, les journalistes jugent selon les résultats. Ils regardent les résultats, et puis ils font l'herméneutique des résultats. Vous voyez, ce serait extrêmement intéressant de faire une analyse herméneutique de l'article du Monde sur la communauté Saint-Jean. C'est très extraordinaire de faire ça. On leur donne des faits, tout est interprété. Et c'est ça l'herméneutique. Alors l'herméneutique liée au positivisme, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qui fait que la vérité est complètement cachée. On a beau leur dire, leur préciser sans aucune espèce d'importance. Ils prennent des faits, puis ils interprètent. Et c'est le contexte d'aujourd'hui. Le contexte du journal le plus intelligent de France qui existe, le Monde. Le journal de tous les curés, de tous les prêtres, de tous les évêques, de tous. C'est le journal, c'est le Monde. On n'est pas intelligent si on lit pas le Monde. On est intelligent que si on lit le Monde. Le reste, ça signifie rien du tout. Vous voyez, cette intelligence perverse, la perversion de l'intelligence, c'est ça. Puisque l'intelligence n'est au service de Dieu que si elle est vraie. C'est-à-dire que si elle est conforme à la réalité. Si elle n'est pas conforme à la réalité, elle est perverse et elle vous détourne. Elle vous détourne. Quand on reçoit quelqu'un avec affection, avec amour, on attend quelque chose d'autre. C'est normal. Alors, je ne les accuse pas, vous comprenez. Ils sont dans un contexte. Dans un contexte. C'est très difficile de sortir de ce contexte. Nous le savons bien. Nous sommes tous influencés par le contexte. Qui d'entre nous oserait dire qu'il n'est jamais influencé par le contexte? On l'est tous. Il faut le savoir. Il faut le reconnaître. Et on fait tout notre effort pour dépasser, pour arriver à cette finalité. Et cette finalité, elle est indispensable, autrement notre foi n'est plus vivante. La foi est vivante quand elle atteint le mystère. Et le mystère, c'est Jésus. Et c'est Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit, puisque le père Dreyfus est dans les murs, on peut le dire ici. C'était une conférence qui était donnée au Solchoir. Je ne dis pas l'année, je ne sais plus. Un père de Jérusalem qui donnait cette conférence au Solchoir. Pas n'importe lequel. Un des meilleurs. Le père Dreyfus était encore au Solchoir à ce moment-là. On s'entendait très bien. Il y a une différence de génération dans l'ordre de Saint-Dominique. puisqu'il est entré après la guerre. Moi, je suis entré en 1930, donc j'étais un vieux pour lui. Mais c'était très amusant, parce que cette conférence était sur « Vous ne comprenez rien à l'écriture si vous ne savez pas l'hébreu. » Vous ne comprenez rien à l'écriture si vous ne savez pas l'hébreu. Parce que le Nouveau Testament ne peut se comprendre qu'en fonction de l'Ancien, et l'Ancien ne peut se comprendre que par l'hébreu. Toute la conférence était comme ça. Vous voyez ? Alors, réfléchissez sur l'ordre génétique et l'ordre de nature. Hein. Si j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est une clé, ça. Une fois qu'on a compris ça, on peut répondre à tous les sophismes. L'ordre génétique, c'est évident. Dieu a commencé par le peuple d'Israël. Donc si vous ne comprenez pas Abraham, vous ne comprenez rien au reste. Et Abraham, c'est pas commode de le comprendre. Il avait 75 ans. Vous n'avez pas encore 75 ans. Donc vous ne pouvez pas comprendre Abraham. Moi, je peux le comprendre. Je suis le seul à pouvoir le comprendre. C'est vrai, si on n'a pas 75 ans, on ne peut pas comprendre Abraham. Et Dieu a choisi Abraham à 75 ans. Sans doute, pour qu'il y ait très peu de personnes qui le comprennent. Choisi Abraham à 75 ans. Au moment où on dit aux évêques, écartez-vous, Dieu choisit Abraham. C'est extraordinaire, ça. Il faut un peu comprendre cette chose-là. Alors, si vous ne comprenez pas Abraham, vous ne pouvez rien comprendre. Si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, vous ne comprenez rien du Nouveau Testament. Alors, à la fin de la conférence, le père en question demande, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, le père Dreyfus, qui était dans le fond de la salle, lève la main. J'étais pas, moi, c'est le père Dreyfus qui me l'a raconté après. C'est exactement, c'est un étudiant qui l'a raconté. Il lève la main et dit, comment se fait-il que tellement peu de juifs qui savent l'hébreu reconnaissent Jésus-Christ ? Alors, le père en question dit, oh mais c'est évident, c'est la foi dans le Christ qui explique tout. Alors il a dit, mais la foi dans le Christ, est-ce qu'elle exige de savoir l'hébreu ? Alors là, il était coincé. La foi dans le Christ, c'est une foi, une personne. Et c'est la foi dans le Christ. Vous scrutez l'écriture et vous croyez y trouver la vie. C'est Jésus qui est source de vie. Et ceci reste toujours vrai. Une fois qu'on a compris ça, vous savez, on est très libre par rapport à une quantité de choses. Vous scrutez l'écriture et vous croyez y trouver la vie. Mais non, l'écriture n'est vivante qu'à cause de Jésus. C'est Jésus qui est celui qui est le grand prêtre, qui est source de tout sacerdoce, comme dit saint Thomas. Fonce sacerdotie, pour tenir cette expression de saint Thomas, qui est le grand prêtre. Et c'est à partir de lui que tout le Nouveau Testament prend sa signification. C'est à partir de lui que tout l'Ancien Testament prend sa signification. On est au-delà des langues. Au-delà. La foi n'est pas liée à une langue. Puisque la raison formelle de la foi, comme dit saint Thomas, c'est la vérité première se révélant. C'est extraordinaire, ça. Ça aussi, il faut le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, vous savez, alors, on est au-dessus de toutes les querelles. On comprend qu'il y a quelque chose en nous de plus vital que tout. C'est notre foi. C'est ce qui est de plus vital en nous. C'est notre foi. Notre foi dans le Christ. Et notre foi dans le Christ, notre foi dans Jésus, le Sauveur. C'est ça qui est toute notre vie. Vous voyez, Catherine de Sienne, c'est ça. Tout le reste, elle le compare. Hein, elle le compare. Elle prend cette comparaison qui est très, très belle à la noix. Une noix fraîche. Vous avez déjà vu des noix fraîches qui dégringolent de l'arbre. Il y a l'écorce. Puis autour de l'écorce, il y a quelque chose qui n'est pas très agréable à manger. Faites l'expérience. Une noix fraîche, une noix qui est déjà rangée dans le grenier, c'est tombé tout ça. Une noix fraîche. Alors, vous voyez, il y a des écorces différentes avant de trouver la moelle. Et Sainte Catherine de Sienne donne cet exemple-là pour comprendre ce que c'est que l'intention de la sagesse de Dieu qui nous parle. Le sens littéral, au sens où saint Thomas nous en dit, rentrer dans l'intention de l'auteur principal. Découvrir l'intention de l'auteur principal. C'est l'intention de l'Esprit Saint. Puisque c'est l'auteur principal, l'Esprit Saint. Qui parle, selon l'Épître aux Hébreux, en dernier lieu, par son fils, par le Fils bien-aimé. Tout le reste est très intéressant. Je dis bien très intéressant. Tout le contexte historique, c'est très intéressant. Toute la philologie, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas capital. Ce qui est capital, c'est de découvrir la moelle. C'est vrai. Quand vous prenez une noix, une noix fraîche, à pleine dent, faites l'expérience avec votre voisin. Et là, vous verrez ce que c'est. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Et là, vous comprenez. Puis après, il y a quelque chose d'un petit peu plus dur. Et puis, avant de découvrir vraiment le fruit. Et l'Esprit Saint nous parle pour que nous découvrions le fruit c'est le mystère. C'est très beau de la part de Catherine de Sienne de dire ça. Ça c'est d'un réalisme extraordinaire. Parce que c'est très beau de voir que de fait, quand vous restez à l'écorce, ça ne nourrit pas beaucoup. Et c'est souvent très 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 pénible. Il faut découvrir le fruit. Et le fruit c'est quelque chose de savoureux. Et c'est le mystère. Et je crois qu'il faut demander à Dieu aujourd'hui, à Catherine de Sienne, puisque c'est notre patronne quand même, hein, Catherine de Sienne, Saint Louis-Marie, on a bien choisi, enfin on en est deux. Ils sont tous les deux dominicains. Il faut le dire parce que je les aime, pas à cause de ça, je les aime, parce qu'ils sont l'un et l'autre, mais tous les deux sont dominicains. L'un tertiaire et l'autre plein dedans. Elle est oblate régulière, comme on dirait aujourd'hui. Oblate régulière, Catherine de Sienne. La patronne des oblats réguliers. Catherine de Sienne. La jeune témoignale. Elle a eu des grâces de doctrine étonnantes. Des grâces de pénétration dans la doctrine et de pénétration dans le cœur de Jésus. Je crois qu'on doit lui demander cette grâce de nous maintenir, voyez, dans la ferveur de la foi et dans la ferveur de l'espérance qui fait qu'on dépasse toutes les contingences dans laquelle la plupart des hommes demeurent. Les contingences. Vous vous souvenez, hein, dans Saint-Luc, ce qui est dit à propos des disciples d'Emmaüs. Tu es bien le seul à Jérusalem qui ignore tout ce qu'ils disaient, les informations, le monde. Tu es bien le seul. Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas là, on s'en fiche pas mal. Hein, qui disent, les chiens aboient, ils aboient très fort. On est au-dessus. On veut bien leur tendre la main. On veut bien les aider. Mais ça n'a pas d'importance. Ils aboient. Ils aboient et continueront d'aboyer, de droite et de gauche. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit neutre. L'amigo, quelqu'un qui n'a plus aucun goût. Sans goût. Voilà ce qu'ils veulent. Ni de droite ni de gauche. On serait de gauche. Il tirait dessus. On est traditionnel, il tire dessus. Parce qu'ils veulent des gens qui n'aient plus aucune conviction. Dès qu'on a une conviction, ça les irrite. Parce que ça leur donne mauvaise conscience. La communauté Saint-Jean donne mauvaise conscience au monde. C'est pas si mal. Ça leur donne mauvaise conscience. Je vous affirme, c'est ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à saisir. Ils voudraient bien saisir. Mais non, ils ne saisiront pas. C'est un secret. Il faut être très attentif à ça. Quand on a reçu un secret, on sait qu'on a reçu un secret. Et on le garde. Et on le garde jalousement. Et on le garde avec amour. Et on ne trahit pas le secret. Quand c'est la recherche de la vérité, on essaie de la dire. Puis on voit incapacité de recevoir un secret. Il le déforme. Incapacité de recevoir la vérité. Ils ne comprennent pas. Incapacité. C'est assez extraordinaire, ça, de sentir ça. Ça doit nous mettre dans une conviction encore beaucoup plus grande de comprendre ce que Dieu attend de nous. Alors je prenais du côté de Catherine de Sienne, parce qu'elle a un sens étonnant de l'écriture. Elle est docteur de l'Église. Hein. Pour une femme, c'est pas mal. Docteur de l'Église, et la réhabilitation de la femme, n'est-ce pas, c'est Catherine de Sienne. Parce qu'elle a à la fois la tendresse d'une femme, elle avait derrière elle des quantités de garçons qui couraient après elle. Des quantités de jeunes qui couraient après elle. Tellement elle était aimée, et je comprends très bien. Ça devait être extraordinaire, Catherine de Sienne. Et en même temps, cette espèce de regard inflexible, ne bougeait pas. Ce désir d'aller le plus loin possible, c'est ça que donne l'Esprit Saint, vous voyez. On ne peut s'arrêter que quand on découvre le mystère. On ne peut s'arrêter que dans le cœur de Jésus. On ne peut pas s'arrêter avant. Le cœur de Jésus, c'est notre absolu. Marc nous avait dit, ne quittez jamais Paris le Monial. Hein ? Ça, c'est un peu le testament de Marc pour la communauté. Ne quittez jamais Paris le Monial. Elle me l'a dit plusieurs fois. Et ça prenait une valeur très particulière. Ne quittez jamais Paris le Monial. Donc, ne quittez jamais le cœur de Jésus. Soyez ancrés, je dis ça pour les marins, soyez ancrés dans le cœur de Jésus. Parce que l'espérance est une ancre qui nous met dans le cœur de Jésus. Et alors, on est fixé dans le cœur de Jésus. Vous voyez, notre quatrième vœu de stabilité, puisque les chartreux ont un vœu de stabilité, les bénédictins ont un vœu de stabilité. J'aime beaucoup de comparer le vœu de stabilité des chartreux au vœu de stabilité des bénédictins. Alors nous pouvons avoir un vœu de stabilité, nous. Et notre vœu de stabilité, c'est être ancré dans le cœur de Jésus. Et si on enlève cette ancre, on ne sait plus où on va. Nous sommes fixés dans le cœur de Jésus. Sainte Catherine de Sienne est notre patronne. Notre cœur ne peut pas habiter autre part que dans le cœur de Jésus. Et c'est bien notre cœur, avec toute notre sensibilité. C'est vrai, dans la communauté, nous respectons les sensibilités. Les rudoyons, on ne va pas les chasser, les rudoyer, les blesser. Non, on les respecte. Comme le cœur de Jésus respecte les sensibilités. C'est un très grand risque, parce que les stoïciens n'ont pas accepté les sensibilités. On respecte les sensibilités, mais on les dépasse pour se fixer dans le cœur blessé de l'agneau. C'est là notre lieu. Et dans le cœur blessé de l'agneau, nous devons aller le plus loin possible. Or, le secret du cœur blessé de l'agneau, c'est le cœur de Marie. Au plus intime du cœur blessé de l'agneau, vous découvrez Marie, et à travers Marie, vous découvrez in sinu patris, dans le sein du Père. C'est ça qu'on doit découvrir progressivement. Nous sommes ancrés dans le cœur de Jésus. Et pour être pleinement ancrés dans le cœur de Jésus, on découvre le trésor du cœur de Jésus. Et le trésor du cœur de Jésus, c'est le cœur de Marie. Et le cœur de Marie, c'est le cœur de la petite enfant du Père. Et elle est fixée in sino patris. C'est merveilleux, ça. Vous voyez, ça fait comprendre pourquoi c'est Catherine de Sienne, pourquoi c'est Saint-Louis-Marie, et pourquoi c'est Saint-Jean le prologue. Dans le prologue, il y a la révélation in sino patris. Et c'est le point le plus secret du prologue. Le Verbe, non, c'est pas le Verbe, c'est le Fils. Le Fils est dans le sein du Père. Et saint Thomas commente. N'oubliez jamais le commentaire de saint Thomas. Parce que c'est là où vous saisissez saint Thomas. C'est pas dans les articles de la Somme. Quand il commente le prologue de saint Jean, comme c'est traduit et bien traduit, vous pouvez lire souvent. Et vous devriez lire souvent le commentaire de saint Thomas du prologue. Je vous affirme que c'est là où vous découvrez Thomas d'Aquin. Et quand il commente in sino patris, il dit, c'est ce qu'il y a de plus secret dans le Père. Ce qu'il y a de plus intime dans le Père. C'est le Père source de toute. Et au plus intime du cœur du Père, au plus intime du Père, vous découvrez son Fils bien-aimé, dont le fruit de toute la rédemption, c'est le cœur de Marie. Et c'est ça que nous devons, nous, découvrir. Nous n'avons pas d'autre raison dans l'Église. Hein. Dites-vous bien ça. Quand on demande notre charisme, on sourit. Parce que nous ne sommes pas au niveau charismatique. Je regrette, je n'ai pas de charisme à vous donner. C'est bien dommage. Ce serait plus facile. Ce serait plus visible. Je me souviens avoir prêché à Châteauneuf. Et ça, je peux le dire, parce que Marthe m'a remercié. C'est rare qu'elle m'a remercié. Elle m'a remercié qu'une seule fois. Et c'est là. Alors c'est d'autant plus éloquent quand j'ai dit que les foyers de charité n'étaient pas des foyers charismatiques. J'ai dit avec force, parce que je n'avais pas prévu que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé de le dire. Les foyers de charité ne sont pas des foyers charismatiques. Il y avait le Père Finet qui était dans le fond là-bas, dans le fond, tout à fait dans le fond. Et que les foyers de charité avaient plus que les charismes. Parce qu'ils avaient le silence de Marie. Et que le silence de Marie est plus précieux que tous les charismes. Je vends tous les charismes pour le silence de Marie. Hein. À tous, tous, absolument tous, pour le silence de Marie. Et que les foyers de charité avaient le silence de Marie. Et que c'était plus précieux que tout. Et que c'était cela que les foyers devaient garder. Pendant une demi-heure là-dessus, trois quarts d'heure. C'était le soir. Alors à la fin, le Père Finet étant dans le fond, j'ai demandé au Père Finet, est-ce que vous êtes bien d'accord? Alors le Père Finet, sa manière, ceux qui le connaissent savent bien, quand on touche quelque chose de profond en lui, il est bourru. Comme ses neveux. Quand on touche quelque chose de profond, il est bourru. Comme ça. Oui, c'est évident, c'est évident. Six mois après, c'est Marthe. Il me dit, merci Père, la petite voix de Marthe. Merci Père. Je dis quoi Marthe? De ce que vous avez dit. Je dis quoi Marthe? Oui, de ce que vous avez dit, que les foyers de charité ne sont pas des foyers charismatiques. Merci Père d'avoir dit ça, parce que vous comprenez, moi je ne peux pas le dire. C'est extraordinaire ça. moi je ne peux pas le dire. Donc j'avais touché ce qui était le plus secret dans le cœur de Marthe. Moi je ne peux pas le dire, c'est son secret. Tout le reste elle pouvait le dire, mais ça ne pouvait pas le dire. Le silence du cœur de Marie. Le silence de la contemplation du cœur de Marie. C'était ça Marthe. Tout le reste, c'était second. C'est le silence du cœur de Marie dans son amour pour le cœur de Jésus. Et c'est pour ça qu'elle était si proche de Saint-Louis-Marie Grignonfort. C'est pour ça qu'elle était si proche de Catherine de Sienne. C'est pour ça qu'elle était si proche de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'elle prolongeait. Thérèse de l'Enfant Jésus lui avait dit qu'elle prolongeait sa mission. Marthe et Thérèse de l'Enfant Jésus. J'espère qu'un jour sera proclamé dans l'Église. C'était la même mission. Et c'est la même mission, vous voyez, ça va directement dans la même ligne. Le silence du cœur de Marie. Et ça m'a beaucoup impressionné, ça, vous voyez. Ça me laisse, c'est très actuel pour moi, ça. Comme une chose qui est ultime. Je crois que c'est pour ça que la communauté Saint-Jean existe. C'est pour garder le secret du cœur de Marie. Dans ce qu'il y a de plus profond. Nos sœurs contemplatives, nos sœurs apostoliques, nous. Tous les frères silencieux, j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux. Tous les frères silencieux qui se consacrent uniquement à la vie contemplative et au service. Nos frères apôtres. Les apôtres sont les gardiens du silence de Marie. Les apôtres sont ceux qui doivent toujours, toujours proclamer et manifester ce silence du cœur de Marie. Ce silence du cœur de Jésus dans le cœur de Marie. C'est ça notre grande mission, vous voyez. C'est pas un charisme, c'est bien plus, c'est un mystère. Quel est le mystère qui, de fait, hein, c'est Marthe qui a dit qu'il fallait que la communauté existe. C'est Marthe, je l'aurais pas fait autrement, vous savez. Je n'étais pas fait pour ça. Donc, j'étais fait pour enseigner la philosophie. C'était ma mission, mais je n'étais pas fait pour aider une petite communauté d'exister. Je n'avais jamais pensé. Jamais. C'est à cause de Marthe. C'est parce que Marthe m'a dit que je n'avais pas le droit de ne pas répondre à l'appel de quelques-uns. Cinq. Et c'est pour ça que j'ai marché. C'est à cause de Marthe. Parce que j'avais une telle confiance en Marthe. Je me disais que ce que disait Marthe, c'était vraiment le Saint-Esprit. Comme ça coïncidait avec le Père de Haut d'une façon tellement remarquable. Marthe aimait le Père de Haut, vous savez, follement. Hein. La première fois que j'ai vu Marthe, pendant une heure, elle m'a parlé du Père de Haut. Pendant une heure. Elle ne le connaissait pas. Et elle savait que toucher la corde la plus sensible de mon cœur, c'était toucher à la paternité du Père de Haut. C'est ça. Pendant une heure, elle m'a dit, il est tout entier caché dans la Sainte Vierge. Tout entier caché dans la Sainte Vierge. Et elle me parlait de lui comme si elle le connaissait, venez, mieux que moi, alors que j'avais vécu avec lui de 6 ans à 40 ans. Et elle le connaissait de l'intérieur. Elle savait que c'était le grand secret du Père de Haut. L'oraison et Marie. C'est ça le Père de Haut. L'oraison et Marie. Ne quittez jamais l'oraison, ne quittez jamais Marie. Tout le reste, c'est de la surabondance. Tout le reste, c'est second. L'oraison et Marie. Marie, c'est la fidélité. Et l'oraison, c'est l'amour. Et les deux choses se tiennent. Il faut les deux. Au fond, c'est ça, tout le reste, c'est il faut le reste, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Il faut la fidélité à la vie liturgique, il faut la fidélité à une vie. Mais notre charité fraternelle ne sera vraie que s'il y a une fidélité à l'horizon. Notre charité ne sera vraie que s'il y a une fidélité à Marie. Si on est complètement donné à Marie. Horizon et Marie, c'est ça. C'est ça le testament profond que nous devons garder. Et on comprend très bien ça, vous voyez. Catherine de Sienne, l'horizon. Louis-Marie, Marie. Et c'est là où on doit comprendre cette espèce d'appel si mystérieux que Dieu veut pour la communauté Saint-Jean. Et je voudrais que vous le compreniez comme une gratuité d'amour. On n'est pas, on ne le mérite pas. C'est évident qu'on ne le mérite pas. On ne mérite pas d'être de la communauté Saint-Jean. Pas la question. C'est pas une question de mérite. C'est une question d'exigence. Question d'exigence. Vous voyez, quand on m'a dit l'autre jour, hein, c'est très curieux, on m'a dit, ah oui, oh, le noviciat, c'est dur, hein, c'est dur. Quelqu'un m'a dit de l'extérieur, je sais très bien d'où ça vient, tout ça. Non. Ah, le noviciat, c'est dur. Je dis non, le noviciat n'est pas dur. Le noviciat est exigeant. Et heureusement qu'il est exigeant. Il doit être exigeant. Parce que l'amour est exigeant. L'amour n'est pas dur. Mais l'amour est exigeant. Et quand on a touché un tout petit peu au feu de l'amour, on sait que c'est très exigeant. Et qu'on n'a pas le droit de mettre quelque chose en dehors. Et donc ça prend tout. C'est ça exigeant. Exigeant, ça veut dire que tout doit être pris. Donc c'est la ferveur. Le noviciat doit être fervent. Je vous l'ai déjà dit. Saint Jean Climiac, il ne faut jamais l'oublier. La spiritualité du Sinaï, l'échelle de la perfection. C'est un très beau livre à lire au noviciat, l'échelle de la perfection. Puis c'est le Sinaï, alors quand même, c'est vieux. C'est traditionnel. C'est très bien. Attachons à la spiritualité de vos Sinaï. La fois prochaine, je dirai ça. Saint-Jean Climiac dit textuellement, il dit, un novice est fervent. S'il n'était pas fervent, il ne serait pas un novice. Un vieux père, fervent, c'est la sainteté. Oui, ce qu'on doit demander à Dieu, c'est de maintenir la ferveur. Non pas la ferveur sensible, parce que notre sensibilité, elle s'use, vous savez, comme les pneus, ça s'use. Ce qu'on maintient et ce qu'on doit maintenir, c'est la ferveur de la volonté. C'est cette volonté d'être fervent. Alors on ne la sent pas, ça n'a pas d'importance. Mais cette volonté d'être fervent, ça c'est la sainteté. C'est-à-dire que tout soit brûlé. Pour saint Thomas, la ferveur, c'est que le capital d'amour qui est en nous soit totalement exploité. C'est très beau. Que tout le capital d'amour qui est en nous soit parfaitement exploité. Alors on est fervent. Vous n'êtes pas fervent quand vous faites des actes à moitié. Vous n'êtes pas parfaitement éveillé dans l'ordre de l'amour. Tandis que quand vous êtes parfaitement éveillé dans l'amour d'amour, vous êtes éveillé, vous êtes fervent. Vous voyez, c'est juste l'inverse de la prudence du normand. Vous savez bien, la prudence du normand. Bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on verra, tu vas avoir des réserves par derrière. Parce que si ça rate d'un côté, moi je mise du côté de Chirac, je mise du côté de Mitterrand. Alors si Mitterrand passe, ça va. Si ça va, j'ai misé des deux côtés. Donc on n'a misé d'aucune façon. On n'entre pas au ciel comme ça. Dieu réclame la totalité du don. Et la communauté Saint-Jean n'a de raison d'être dans l'Église que si justement on est fervent. Et on ne peut pas dire que c'est notre charisme. Vous voyez ça, on dirait le charisme de la communauté Saint-Jean, c'est d'être fervent. C'est un plan ennuyeux. Il y a ça. Et le charisme de Saint Jean, c'est quoi? Est-ce que c'est pas la ferveur? Est-ce que c'est pas ça que Saint Jean nous apprend, la ferveur? Vous voyez, je vous ai déjà dit, quand il regarde Saint Jean, quand, je veux dire, Saint Thomas regarde Saint Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit bien la perspicacité de l'intelligence, la pureté du cœur et la jeunesse. Traduisez ça d'un seul terme, dites la ferveur. La ferveur dans l'intelligence, c'est d'avoir un désir d'aller toujours plus loin dans la vérité. La ferveur dans la volonté, c'est de faire que tout l'amour dont on est capable soit en acte. Et la ferveur dans l'espérance, c'est la jeunesse. C'est de savoir qu'on peut progresser et qu'on veut progresser. Qu'on n'accepte jamais de s'arrêter. Accepter de s'arrêter, c'est arrêter la ferveur. On n'a pas le droit. Donc il faut une volonté de ferveur. Oui, je crois que c'est ça qu'on doit être dans l'Église. Cette volonté de ferveur. C'est pas comme, c'est très très exigeant parce que ça exige d'aller jusqu'au bout de la sainteté. Je suis persuadé que c'est ça. Parce que c'est ça qui caractérise le disciple bien-aimé. Oui. C'est donc aller jusqu'au bout de l'exigence de l'intelligence, recherche de la vérité. L'exigence de l'amour et l'exigence de l'espérance. Alors ça, si on fait ça, c'est pas un charisme. Hein. Non, non. C'est quelque chose de purement intérieur. Je crois que là, on rejoint le cœur de notre petite Marthe. Parce qu'elle était bien cela. Ce qu'elle avait d'avidité de la vérité. Si je suis resté 18 ans après chez Châteauneuf, vous savez, c'est à cause de Marthe, hein, je le sais. Parce qu'on ne supportait plus beaucoup. Et c'est à cause de Marthe. Et le père Finet, qui était très sensible à tout le contexte, très sensible à ça, en bon lyonnais, n'est-ce pas, très sensible à tout le contexte, c'est très très sensible. Si malgré ça, le père Finet, c'est à cause de Marthe, il me l'a dit, c'est Marthe qui m'a dit que vous deviez rester. Marthe avait un désir de vérité, vous savez. Elle me l'a dit plus d'une fois, elle l'a dit au père Finet, le père Finet l'a répété. C'est pas du tout parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est le désir de la vérité. Marthe disait, le père Philippe, il met en place la vérité philosophique, la vérité théologique, la vérité mystique. Vous voyez, Marthe, petite paysanne, formée par l'Esprit Saint, était terriblement sensible à ça. Je trouve ça très beau. C'est très grand. Dans ce sens-là qu'elle est très proche de Catherine de Sienne. Elle avait ce sens extraordinaire de la recherche de la vérité. Et d'une recherche de vérité qui n'est pas, vous voyez, univoque. Non, non. Vérité philosophique, humaine, théologique, et puis mystique. Elle avait ce sens de la vérité, elle avait une ferveur d'amour, c'est évident. Vous savez, quand on doit verser son sang tous les jours pour Jésus, il y a une ferveur d'amour. Et Marthe versait tout son sang, du moins son sang tous les jours pour Jésus, avec le mystère du couronnement d'épines, presque toutes les nuits. Donc elle était martyre à ce point de vue-là. Et Marthe avait une soif d'espérance merveilleuse comme petit enfant de Dieu. Toute petite enfant de Dieu, la source. Il y avait quelque chose qui jaillissait. Oui, je crois que c'est ça que nous devons demander dans cette fête de Sainte-Catherine, dans cette prise d'habit d'aujourd'hui, qui est tellement symbolique pour nous. C'est un appel, une exigence de Dieu. dans cette fête de Saint-Louis-Marie, qui est au Montfort. Devons demander ça. Et nous devons comprendre que c'est comme un secret qui se balbutie, qui se communique. C'est un secret d'amour. On ne peut pas le dire, ça. Et quand on vous demande quel charisme de la communauté Saint-Jean, vous dites le charisme de la communauté Saint-Jean, peut-être, hein, oui, je ne sais pas trop. C'est vrai, je ne sais pas. C'est difficile de dire que c'est d'être sans charisme. C'est difficile de dire ça, parce qu'on a l'air de mépriser les charismes. On ne les méprise pas, on les aime. C'est peut-être le charisme du sermon sapientiel. Communiquer aux autres par le silence et par la parole. Le grand secret du cœur de Marie. C'est peut-être ça, le charisme. Mais c'est difficile à dire, ça ne veut pas dire. On le garde comme un secret. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus qu'un charisme. C'est ce que Marthe désirait. C'est de garder le silence de Marie dans l'oraison, tous les matins. Demander d'être le silence de Marie dans l'église aujourd'hui.